Au quotidien, avec Denis Martin Chabot.
Eh oui, bonjour, bonjour, bonjour et bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Parce qu'on arrive à les journées quatre fois plus longues de l'année, ça s'en vient. On arrive au solstice de l'été, hein? Ça, 21 juin, c'est pas... Après ça, on continue à descendre. Bon, écoute, on va pas se décourager, hein, parce que c'est l'été qui est là, on en profite, il fait beau. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Mathieu Tessier, qui est à la régie aujourd'hui. Comment ça va?
Je dirais pas quatre fois mieux, mais ça va bien.
Ça va bien, hein? Je trouve que quatre fois, c'est comme... Je sais pas, ça sollicite l'imaginaire. Et avec moi aussi en studio, Louis de Bernis. Allô Louis!
Bonjour Denis Martin.
Profitez de l'été tous les deux?
Ah oui, du vélo, là, c'est le temps d'en profiter.
C'est le temps de sortir les mollets.
Exactement, de les faire respirer.
Oui, parce que, écoutez, on annonce quand même alternance de soleil et de nuages partout dans le sud et le centre du Québec, en Ontario aussi, et même dans les provinces de l'Atlantique, avec un petit peu plus de pluie là-bas. Mais bon, il y aura de la pluie en fin de journée. C'est un peu la norme, hein, quand il fait beau à Montréal et au Québec. Il fait chaud dans la journée, puis un petit peu plus en soirée. Bon, et ça va être encore plus beau demain. Puis pour vous dire jusqu'à quel point il fait beau, ben on a un indice, et pas mal partout au pays, un indice UV. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça, hein? Mettez de la crème solaire parce que c'est 7 ou élevé. Puis on sait, là, les cancers de la peau sont en hausse au Québec et au Canada. Alors, on parle de température qui pourrait atteindre jusqu'à 26, 27 degrés. En fait, même c'est en Alberta, on parle de 26 degrés, 21 dans les provinces de l'Ouest. Et puis, devinez quoi? Il pleut pas sur la côte ouest. La côte ouest n'a pas de pluie. 23 degrés Vancouver. Alors, partout, là, au Québec aussi, je l'ai dit, 20, 22 degrés. Donc, oui, portez peut-être un petit parapluie pour la fin de journée, juste au cas où, mais c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe à l'émission aujourd'hui? Louis de Bernis, on parle d'insolites.
Oui, je vais vous parler de photographie et d'un concours un peu particulier, du concours de la pire photographe du monde. C'est une Française qui l'a remporté il y a quelques jours. Je vous expliquerai comment ça s'est passé.
Je ne m'inventerai pas.
Et puis aussi, une curiosité dans le monde du luxe, un sac à main en cuir de T-Rex, le dinosaure. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait ça. C'était dans une mise aux enchères à Paris.
Bon. Alors, Jurassic Park qui revient. Oui. Puis nous, on va parler beaucoup de culture aujourd'hui parce qu'on reçoit Laurence Côté, gestionnaire des opérations et des relations d'artistes au Festival Saint-Ambroise au Fringe de Montréal. Et puis, on va aussi parler de l'Orchestre classique de Montréal qui organise une journée classique à l'Oratoire Saint-Joseph. C'est gratuit en plus de ça, donc on va en discuter avec le directeur général, Taras Kulich, et Guillaume Blais, qui est direction gestionnaire et création au monastère. On va parler de Confession 2, c'est terminé, mais on va parler de cet endroit assez extraordinaire où les arts circassiens sont mis de l'avant. Et puis, on va parler quand même d'un phénomène qui touche beaucoup de monde. On va parler de la dysphagie, c'est le mois de la dysphagie au Canada et au Québec. Un peu, qu'est-ce qui cause tout ça? C'est quoi les espoirs des personnes qui vivent avec la dysphagie? C'est-à-dire d'avoir des problèmes à s'alimenter ou à avaler. C'est quand même pas drôle de vivre ça. Puis, bon, dans l'éphéméride du jour aujourd'hui, le saint du jour, c'est plus fort que moi, fallait que je vous le mentionne, c'est Saint-Bernard de Menton. Bon... Oui, menton. M-E-N-T-H-O-N. Donc, ce n'est pas la partie du corps, évidemment. Mais voilà, quand on se frappe le menton, on pourra dire, Saint-Bernard. Mais alors, plus sérieusement, c'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. C'est donc une journée importante. Vous savez que ça existe beaucoup, toutes ces formes d'abus envers les personnes âgées. Donc, une journée à souligner aujourd'hui. Et puis, comme chanson du jour, je vais la présenter aujourd'hui parce que elle a remporté le prix Félix Leclerc au Franco en fin de semaine. Il s'agit de Lisandre. On l'écoute.
Quand je t'ai ouvert ma maison sans savoir.
Et
C'était Lisandre et sa chanson 50-52 ou 5052.
Oui, bien, dans les actualités aujourd'hui, Le Devoir, la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, a lancé un appel public à la population pour collaborer à l'enquête du service de police de la Ville de Montréal concernant des allégations de racisme au sein du poste de quartier 39. Une équipe de policiers de Montréal-Nord a été démantelée vendredi soir, soupçonnée de comportements racistes. Certains auraient collectionné des mèches de cheveux de personnes qu'ils appréhendaient à la manière d'un scalp. Visiblement émue lors de son point de presse, la mairesse a souligné que l'ampleur de ces révélations représentait un choc, tout en reconnaissant qu'elle rouvrait de vieilles blessures au sein d'une communauté marquée par un sentiment de déjà-vu. Rappelons d'ailleurs qu'il y a 20 ans, Freddy de la Nueva était tué par des policiers. Une manifestation est prévue ce soir devant le poste de police 39 à Montréal-Nord. Les États-Unis et l'Iran ont annoncé un protocole d'accord de paix au Moyen-Orient. C'est dans la presse plus que je retrouve ça. Plusieurs éléments clés demeurent à négocier au cours des prochaines semaines, mais il s'agit d'une étape significative vers une diminution des tensions régionales. Ce protocole diplomatique prévoit la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Les deux administrations se donnent un horizon de 60 jours pour amorcer des négociations techniques approfondies entourant la levée progressive des sanctions économiques états-uniennes et l'encadrement du programme nucléaire de Téhéran. La signature de cet accord est programmée pour ce vendredi à Genève, en Suisse, en présence des délégations internationales. Dans Le Devoir, le sommet du G7 s'ouvre aujourd'hui à Évian-les-Bains en France, sous l'égide de la présidence française, rassemblant les dirigeants des 7 grandes puissances économiques mondiales. Cette rencontre de 3 jours se déroule dans un climat de haute sécurité, avec la mobilisation de 15 000 membres des forces de l'ordre françaises et près de 4 000 militaires suisses pour surveiller la région frontalière et l'espace aérien. Les discussions officielles se concentrent principalement sur les grands défis géopolitiques actuels, l'encadrement de l'intelligence artificielle et la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le sommet est également marqué par les pressions des organisations civiles concernant l'économie globale, alors que des données récentes font état d'une baisse marquée de l'aide publique internationale au développement de la part des pays membres du G7. Hier, 20 000 personnes ont manifesté à Genève, en Suisse, juste en face d'Évian-les-Bains, parce qu'à Évian-les-Bains, évidemment, il est interdit de manifester. Et ces manifestants en voulaient, entre autres, à la présence de Donald Trump. Dans la presse plus, en visite officielle à Dublin, le premier ministre canadien Mark Carney a affirmé qu'aucun pays ne pourra définir seul le nouvel ordre mondial, soulignant la nécessité de renforcer les alliances entre les puissances moyennes. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue irlandais, Michael Martin, le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de diversifier les partenariats face à la fragmentation géopolitique et économique actuelle. Le Royaume-Uni va interdire aux jeunes de moins de 16 ans d'utiliser toute une série d'applications de réseaux sociaux. C'est ce qu'annonce le premier ministre du pays, Keir Starmer. Il a promis de riposter si les grandes entreprises technologiques lui mettent des bâtons dans les roues. Cette interdiction vise à protéger les enfants contre les contenus préjudiciables en ligne et une utilisation excessive des écrans. Cette mesure place le Royaume-Uni au cœur d'un mouvement mondial croissant visant à renforcer la sécurité en ligne des enfants. Le Canada, l'Australie, le Brésil et l'Indonésie ont déjà adopté des lois ou annoncé des restrictions ou exigences liées à l'âge pour l'accès des enfants aux réseaux sociaux. La France, l'Espagne, le Danemark, la Thaïlande et la Corée du Sud font partie des pays qui étudient ou élaborent actuellement des approches similaires. Une nouvelle dans la presse plus, une nouvelle attaque de missiles russes a frappé massivement la capitale ukrainienne, provoquant un incendie majeur au sein de la cathédrale de la Dormition. C'est un monument historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une façade de cet édifice religieux majeur situé dans le complexe de l'Or des Grottes à Kiev a été éventrée et sa toiture en partie détruite. Et les frappes aériennes de cette nuit ont également visé d'autres grandes agglomérations du pays, dont la ville de Kharkiv, où les autorités locales rapportent la mort d'au moins 5 personnes. Politique québécoise, enfin, dans la presse plus, le Parti libéral du Québec a officiellement envoyé une mise en demeure au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, à la suite de déclarations liant le PLQ, au crime organisé lors du financement de la caisse occulte. Le Parti libéral du Québec a officiellement envoyé une mise en demeure au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, à la suite de déclarations liant le PLQ au crime organisé lors du financement de sa caisse occulte. Le chef libéral Charles Milliard a qualifié ses propos d'irresponsables, de diffamatoires et d'indignes, reprochant à son adversaire de ne pas fournir aucune preuve. Lors de ce point de presse, Paul Saint-Pierre-Plamondon a refusé de se rétracter, affirmant qu'il continuerait à poser des questions sur les pratiques de financement du parti et qu'une éventuelle poursuite judiciaire permettrait d'approfondir le dossier.
Ça fait longtemps que je suis dans la game en mode survie. On s'en fout, la faute à qui? Ce 3,5, j'emmerde le capitalisme. Cette litanie de problèmes qui nous pèse comme des chaînes. On va changer le mal de place, sentir le vent dans nos faces et parcourir la planète. Une mélodie dans la tête, je sais ce qui te démange. T'es écœuré de ta job, parce que la job est écœurante. La job est écœurante. Nos amis, des clandestins dans la nuit, en direction du soleil. Mon amour, on mange des claques, ce monde nous envoie valser. Mets ton cœur dans un sac, on s'arrêtera gazé. Parti pour de bon, parti pour de bon. Parti, 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 parti pour de bon, parti pour de bon. Parti, parti, parti. Rentrer en Amérique dans ma CRV pour se rendre à cette gig dans le ciel des soirs d'été. Chaque semaine tout est pareil, chacun boxe avec sa peine. Que ça vaut ce qu'on nous paye, mettre nos rêves en bouteille. Ici demain on meurt de joie et de bonheur, ce sera pas pour rien, notre vie nous appartient. C'est pourquoi je garde bien un petit sourire en coin, en tant que gardien d'un secret qui chante faux, qui chante vrai.
Parti pour de bon, une chanson de Mehdi Cayenne.
Avant d'aller à Louis de Bernis, je vais quand même corriger parce que j'ai eu un petit problème avec un texte qui était fort mal écrit et c'est moi qui l'ai écrit, alors ça arrive. Alors je voudrais juste revenir sur un texte que j'ai repris de la Presse Plus et que j'ai adapté. C'est que le Parti libéral du Québec a officiellement envoyé une mise en demeure au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, à la suite de déclarations liant le PLQ au crime organisé dans le cadre de ses campagnes de financement ou de sa campagne de financement. Alors voilà, je vais juste m'assurer qu'on avait bien compris cette phrase. Bonjour Louis de Bernis.
Bonjour Denis Martin.
Alors on va parler d'une française sacrée pire photographe du monde. Je sais pas, moi je me vanterais pas de ça.
Eh bien, il y avait une récompense à la clé quand même.
Ben là s'il y a une récompense, d'accord, je vais être le pire de tout.
C'était un concours un peu original effectivement et c'est pour ça que je vous en parle, qui promettait un titre, celui de pire photographe du monde. Avec un titre comme celui-là, il faut un peu de second degré, vous vous en doutez. Eh ben, cela tombe bien, celle qui a gagné, remporté ce prestigieux titre s'appelle Blanche Mortemar. Elle est française, elle vit à Paris et elle ne manque pas de second degré visiblement. C'est une Parisienne donc de 28 ans et elle vient faire part au monde entier de son absence totale de talent, un atout qui lui vaut donc aujourd'hui une reconnaissance internationale. Une photographe d'exception, c'est comme ça qu'on pourrait la décrire. Un concours très disputé aussi, il faut le dire, hein, qui était organisé par la compagnie aérienne islandaise Iceland Air. Pas moins de 127 642 candidats se sont bousculés et ont bataillé pour devenir le ou la pire photographe du monde. Ce sacre mondial se mérite. Pour le décrocher, les concurrents devaient chacun prouver leurs belles lacunes en envoyant leurs photos les plus ratées de vacances ou de moments de vie. La concurrence était vraiment rude, a reconnu Blanche Mortemar. Ses secrets pour faire la différence, eh bien, notamment dans l'article, il y a trois clichés qui sont dévoilés, qui faisaient part de sa, qui étaient dans sa candidature. Elle a réussi, par exemple, sur l'un des clichés, à rendre flou la statue de la liberté. Le concours s'est demandé à croire que le modèle bougeait, tellement le résultat était flou. Elle a pu également aussi gâcher la vue d'Oslo sous la neige. Ça, c'est peut-être un classique, mais on voyait clairement son doigt apparaître sur une grosse partie du cliché.
À quelle heure ?
Bon, ça, voilà, ça nous est probablement tous arrivé. Et puis, étonnant aussi, une photo d'une mouette sur un poteau qu'elle avait voulu prendre. On ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais une grande partie du cliché, il y a une oreille. On ne sait pas si c'est la sienne, celle de quelqu'un d'autre. On arrive mal à deviner l'angle qui a pu être utilisé. Voilà, en tout cas, ça donne des clichés tout à fait loufoques. Elle en a ainsi soumis plusieurs à l'organisation. Gisli Brynjolfsson, directeur marketing de la compagnie aérienne, organisatrice du concours, s'est félicité de ce succès. A souligné, le niveau était vraiment bas, mais vous avez quand même réussi à dépasser les attentes. Voilà pour la lauréate. Elle ne décroche pas seulement ce titre loufoque. Il y avait quand même la coquette somme de 48 000 euros à remporter, à peu près 75 000 dollars canadiens.
Bah, je participe l'an prochain, c'est clair.
Et voilà, et elle remporte également un séjour de 10 jours en Islande pour aller compléter sa collection de clichés ratés. Elle compte bien se rendre dans ce pays pour immortaliser donc ces beaux paysages. On lui souhaite quand même qu'elle réussisse à progresser et à faire de plus beaux clichés que ceux de sa candidature.
On s'en va au parc jurassique, une pièce unique au monde.
Oui, c'est une nouvelle très insolite, la croisée des chemins entre le jurassique, effectivement, le monde scientifique, aussi l'univers du luxe, et puis l'univers insolite. On n'est pas dans Jurassic Park, mais on commence à s'en approcher quand même. La maison Gicello a proposé une pièce unique au monde dans le cadre de sa vente Tentation numéro 4 à l'hôtel Drouot. C'était il y a quelques jours à Paris, le 11 juin. Elle a présenté ce qui pourrait être le premier sac à main réalisé en peau de T-Rex. Cet objet exceptionnel allie donc préhistoire et techniques scientifiques plus modernes. Il était estimé à environ 300 000 euros. C'est un cuir en fait, un cuir cultivé en laboratoire, baptisé T-Rex Leather, cuir de T-Rex. Il a été mis au point à partir de traces de collagène qui ont été découvertes dans un fémur de dinosaure dans le Montana aux États-Unis. Dans les dernières années, on a réussi à avoir des techniques, des biotechnologies avec lesquelles on peut donner comme des instructions à une culture cellulaire pour construire, entre guillemets, en laboratoire de la vraie peau de T-Rex, explique Jacopo Briano, expert en paléontologie et histoire naturelle. Il faut dire que lui présente les choses ainsi. Il y a aussi des détracteurs qui arguent que c'est seulement du collagène, ça n'est pas donc exactement de la peau. Hein. Beaucoup d'animaux, nous-mêmes, avons du collagène. En tout cas, le matériau de base, ce collagène, a été tanné ensuite comme un vrai cuir avant la confection d'un sac orné d'argent. Je dois dire que le sac, quand même, vaut le coup d'œil. Il a une apparence grisâtre et on arrive assez bien à imaginer que ça recouvre entièrement un squelette de dinosaure. Il a été présenté d'abord en avril dernier par le Musée de la taxidermie d'art aux Pays-Bas, avant d'être donc récupéré par Drouot plus récemment. Une pièce unique au monde, un jalon historique qui redéfinit les frontières de la création et du marché du luxe, estime Alexandre Gicello. À travers cette création, le T-Rex, le cuir de T-Rex, esquisse des perspectives inédites pour les matériaux de demain. Ça, c'était pour la description de la vente aux enchères. Bon, petit problème, cet article donc date d'il y a quelques jours, et en me levant tout à l'heure, il y a une heure, j'ai découvert les nouvelles plus récentes de cette vente. Ça a été un peu un raté, on va le dire comme ça. Les enchères ne se sont pas envolées autant que les commissaires l'espéraient. L'enchère la plus élevée s'est élevée à 150 000 euros quand même. Il y avait quelqu'un prêt à dépenser cette somme-là, mais ça restait en dessous du prix de réserve, et donc le sac n'a pas trouvé preneur lors de cette vente aux enchères. C'est probablement toutes les controverses et les critiques d'autres paléontologues qui arguaient que ça n'est pas vraiment de la peau de tyrannosaure, ça a refroidi peut-être certaines ardeurs de collectionneurs. En tout cas, voilà, ça ouvre une fenêtre sur peut-être une nouvelle manière de faire du luxe, mais le marché ne semble pas encore complètement prêt.
Je vais reprendre une expression en anglais, mais je vais la traduire à des problèmes de premier monde, quand on a trop d'argent. « Et oui, c'est tout plein de festivals à Montréal, un peu partout au pays. Alors ici, présentement, il y a eu le Festival Transamérique. Maintenant, ce sont les Franco qui battent leur plein. Et j'ai réussi à rencontrer une artiste qui de la drague, de la chanson, très connue en France et qui passait donc pour la première fois au Québec. J'ai réussi à avoir une entrevue avec Piche, qui a des origines gitanes, la première drag queen gitane de France et aussi d'origine maghrébine. Alors, cette entrevue, je vais la diffuser dans mon émission qui s'appelle « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » en septembre. Et je me disais, je vais vous faire entendre un petit avant-goût. Hein, c'était sa première visite, donc je fais écouter Piche. D'abord, c'est ta première fois à Montréal ou...
C'est la toute première fois.
Oui.
On a eu la chance d'être programmé. je suis très content. Et ça va être cool. La première rencontre avec le public du coup de Montréal qu'on appelle les Montréalais.
Là, les Montréalais.
Montréalais.
Ouais.
Bien sûr, je vais pas donner
de... Mais avec un S, pas avec un D. Et est-ce que tu auras le temps, est-ce que tu as le temps de rencontrer ou de venir voir un peu la scène queer ici à Montréal, la scène drag aussi? Oui.
Mais il était 3 heures du matin et tout était fermé, donc j'ai pas pu voir ça. J'ai essayé de repasser un autre moment.
On a pu voir le fabuleux numéro de Piche, c'était samedi soir à 20h. C'était gratuit et puis danse. C'était un danseur de formation aussi. Vraiment, c'était superbe à voir. Je vais passer du côté des paractualités. J'aimerais vous lire une chronique, je vais la lire au complet, la chronique de Laure Varidel qui est parue le 13 juin dans le Journal de Montréal. Depuis 6 ans, j'écris ces pages qu'il faut agir maintenant. Alors maintenant, pour protéger le climat, la biodiversité et la santé de nos enfants, maintenant pour réduire les inégalités, maintenant pour défendre la démocratie. Je ne savais pas que ce mot finirait par s'enflammer en moi. Non seulement parce qu'agir me semble toujours plus urgent, mais parce que la vie, elle est aussi, c'est aussi maintenant. Au cours de la dernière année, 3 amis sont décédés de cancer du sein qui se sont généralisés. 3 femmes lumineuses, aimantes et aimées, Marie, Myriam et Anouk, mangeaient santé, faisaient de l'exercice régulièrement. Elles ne fumaient pas et elles buvaient très peu. Quand chacune d'elles est partie, je me suis dit que ça aurait pu être moi, tant nos âges et nos vies se ressemblaient. J'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre à 200 km/h et remettre à plus tard des projets qui donnent du sens à ma vie, notamment la construction de communautés tissées serrées où l'on prend soin les uns des autres. Pour ça, il me faut prendre du temps, loin des écrans, sur le terrain, au rythme du vivant. Aller à la rencontre des gens qui résistent à la cupidité, au cynisme et à l'égocentrisme, 3 poisons qui mènent à l'effondrement des individus autant que des sociétés. Ceci est donc ma dernière chronique. Je quitte ces pages, le cœur plein de reconnaissance d'avoir pu m'adresser à vous chaque semaine ces dernières années. Merci au Journal de Montréal de m'avoir donné cet espace de liberté pour dénoncer et proposer. Souvent aux côtés d'autres chroniqueurs dont les propos me font parfois frisser. Merci à tous ceux et celles qui m'ont lu, appuyé, contredit et fait réfléchir. Ainsi, je pars pour me consacrer à d'autres possibles qui commenceront par un voyage d'apprentissage de 5 mois autour du monde avec ma fille Alphée, atteinte d'un syndrome rare qui provoque une déficience intellectuelle. Comme la grande majorité des extraordinaires comme elle, à 21 ans, elle se fait larguer par le système. Nous irons donc voir ailleurs comment d'autres pays veillent au bien-être des gens différents. Je sortirai aussi de ma zone de confort en accompagnant Alphée dans ses grandes passions, comme celle de la K-pop en Corée et du Roi Lion en Tanzanie. Parce qu'elle ne pourra jamais sortir le sac au dos comme d'autres jeunes le font avec leurs amis au cours de leur vie. J'ai décidé de le faire avec elle. Mais ce voyage n'est pas seulement une aventure mère-fille. Depuis des années, mon mari, l'avocat Bruce Johnson et moi rêvons à la création des Jardins des Possibles, un projet agricole et forestier où des personnes neurodivergentes pourront vivre, apprendre, travailler et s'épanouir. Un lieu où on cultivera les forces plutôt que les limites. Nous partirons donc à la rencontre de ceux et celles qui animent ces lieux. Merci pour la route parcourue ensemble et pour celle qui commence. Donc, c'était la dernière chronique dans le Journal de Montréal de Laure Varidel qui va donc se consacrer à créer des communautés tissées serrées. Ça va être bon et intéressant à voir. Elle va faire un voyage autour du monde d'ici ce temps-là. Nous, on a le temps de vous dire, ben oui, il fait beau parce que partout au Canada, et on vous annonce quand même des températures qui vont aller entre 22 à 26 degrés. C'est plus chaud là, dans l'ouest du pays, de la pluie en fin de journée dans la plupart des régions, et c'est de la pluie à l'intérieur de la Colombie-Britannique. Après la pause, on va parler du Festival Fringe. Je vais avoir plusieurs pièces d'ailleurs ce week-end. Alors, on reçoit donc la personne qui est gestionnaire des artistes. On va tout parler de tout ça tout à l'heure. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
On dormait à la cuillère, maintenant on est dos à dos. Je t'ai mis dans des loulous, plus de chaussures à dos. Tu marches sur mon cœur, je t'aime quand même, je suis un peu sado. Et ça aide, le temps répare les sentiments. Quand je dis je m'excuse, tu me dis à 100% tu mens. Tous les gars te veulent et ils rêvent en rang. Mais c'est moi que tu suis religieusement comme le révérend. Mr. Loverman Shabba, tu crois que je blague, haha. À chaque fois que je preach, je fais un abba. Mais on joue pas au qui, j'ai appris. Fais pas à une femme ce que tu voudrais pas qu'on fasse à ta fille. Ce qui t'irait encore mieux que cette robe Versace, ce serait mon nom de famille pour la vie. On était toxiques comme Whitney et Bobby Brown. Je veux compter sur toi, je m'en fous de compter ton body count.
T'es vraiment des lolos, Ripski. Tout ça me rend des lolos. Viens ramasser ton cœur sous la semelle de mes lolos.
Thank you.
C'était la chanson des loulous avec Mariem, Claudel et Impos.
La 36e édition du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal fait vibrer la métropole jusqu'au 21 juin 2026. Je suis allé voir plusieurs pièces là, ce week-end. Ça m'a vraiment diverti. Puis pour comprendre les coulisses de cet événement, c'est quand même quelque chose. Là, 600 représentations, 110 troupes de théâtre ou de compagnies de théâtre. Mm-hmm. On reçoit Laurence Côté, gestionnaire des opérations et relations d'artistes du Festival. Laurence, bonjour.
Bonjour.
On va se tutoyer parce qu'on a comme l'impression qu'on se connaît pas mal.
Ben oui.
Le mot fringe, ça vient d'où, ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Le mot fringe, en fait, ça vient du terme anglais on the fringe. Donc,
dans les marges.
Exactement, dans les marges. C'est parti du festival Fringe d'Édimbourg. En fait, à Édimbourg, il avait fait un festival, une expo, puis il n'avait pas invité les artistes locaux. Puis les artistes locaux, ils ont fait comme hey, pas cool. Fait qu'on va faire notre propre festival, le festival Fringe, dans les marges de ce festival-là. Puis c'est parti de là. Puis là, c'est international. Il y en a partout.
Oui, il y en a partout. Moi, j'ai vécu à Edmonton. Puis il y en a un énorme.
Un gros,
c'est
ouais.
gros là-bas. J'ai même joué dans des pièces de théâtre au Fringe à Edmonton. Cela dit, on dit aussi Saint-Ambroise. Ça, par contre, ça m'étonne. Ça veut dire quoi, là?
Oui, en fait, Saint-Ambroise, c'est un de nos plus gros commanditaires.
Ah, voilà. Ouais. OK.
On a leur bière.
Ah, c'est partout. La bière. Moi, je pensais que c'était un saint quelque part qui faisait du théâtre. Tu vois, j'avais pas compris.
Non,
ça.
C'est vraiment les brasseries McCausland, là.
Parfait. Alors, c'est un festival de théâtre fringe.
De théâtre, mais aussi.
Au plein de choses, oui.
Pluridisciplinaire.
Oui, bien, j'ai vu la sororité hier, et puis il y avait de la danse aussi là-dedans.
De la danse, du drag, clown, marionnette, bouffon.
Il y a de tout.
Il y a de tout, oui.
Alors, on orchestre au quotidien, là, le quotidien, pardon, de 110 compagnies de production, 110 productions, 500 interprètes, c'est du monde.
C'est beaucoup de monde.
Comment on s'y prend?
on les supporte beaucoup, on les aide, on essaie de vraiment les guider. Il y a toutes sortes d'artistes qui viennent au Fringe. Il y a des gens de la relève qui sortent de l'école de théâtre, qui veulent produire pour la première fois. On a aussi des artistes qui font plein de tournées Fringe, surtout à travers le monde. Puis il y en a d'autres qui sont juste là, ils veulent essayer quelque chose. Fait qu'on a comme un bagage de plein d'artistes différents. Puis nous, c'est ça, on leur partage l'information, on leur donne des ateliers pour les guider, comment produire. On leur explique...
Ah bon? Fait que là, les gens, c'est pas juste... Ils font pas juste présenter leur spectacle chez vous, vous les aidez.
Oui, oui.
Oh, wow.
Fait que moi, on accepte les compagnies au mois de novembre. Puis moi, depuis novembre, j'ai donné des ateliers sur le marketing, sur l'autoproduction, sur des ateliers individuels aussi pour parler de leur communiqué de presse. Donc, on les épaule vraiment là, dans tout le processus pour qu'ils soient prêts, un, à produire un show, mais aussi à produire un show dans le contexte du Fringe. Qui est quand même unique aussi. Là, on rentre en salle, ça part.
Ils ont 15 minutes pour s'installer puis 15 minutes pour sortir.
C'est ça.
Faut être organisé.
Oui, vraiment. Puis ça aussi, on a un atelier juste pour expliquer comment s'organiser là-dessus. Là.
Mais là, vraiment, parce qu'il y a 25 salles réparties à Montréal, entre autres. Là, ben, les quartiers, là, pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur de Montréal, il y a quand même plusieurs quartiers, dont le fameux plateau, le centre-ville, le village. Comment on s'assure donc que tout ça fonctionne aussi? C'est pas évident, là?
Bien, on a une équipe incroyable, là, puis on a des contacts aussi. On réutilise beaucoup des mêmes salles. Réutilise. Oui. On reloue les mêmes salles beaucoup.
Vous les connaissez bien.
Oui, on les connaît bien, mais on a aussi à chaque année certaines nouvelles salles qui s'ajoutent. Puis il y en a qui reviennent aussi cette année. On est retourné au théâtre aujourd'hui qu'on adore. Donc, c'est beaucoup de coordination. Puis nous, dans le fond, on place vraiment les compagnies dans la salle qui les représentent le plus. Parce que la plupart de nos compagnies, c'est nous qui sélectionnons leur salle, c'est nous qui leur donnons un horaire. Mais on a une autre programmation qui est le off.
Ouais.
Puis ça, ces gens-là, c'est le programme, entre guillemets, « Apportez votre salle », où c'est dans un lieu moins traditionnel. On a un spectacle dans un parc, par exemple. Eux, ils apportent leur salle. Donc, c'est eux qui gèrent leur salle. Puis ça leur permet un peu de faire des trucs que c'est ça. Dans une salle traditionnelle, ça fonctionnerait peut-être pas. Là.
Bon, on va parler de comment on choisit les pièces.
Oui.
Comment est-ce qu'on choisit les spectacles?
C'est par tirage au sort.
Ah bon?
Donc, il n'y a pas de sélection traditionnelle où on lirait un texte ou un pitch. C'est vraiment les artistes appliquent à notre tirage au sort, puis on fait une pige. Donc, il n'y a pas de censure. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans les spectacles. Les seules conditions pour appliquer, c'est il faut avoir un nom de compagnie. Il faut remplir le formulaire, bien entendu. Puis nous, de notre côté, on a des quotas pour s'assurer de bien représenter le Canada, le Montréal d'ici. Donc, la moitié des compagnies locales, donc 40 % de notre programmation, c'est Québec-Français.
Ouais.
Québec-Anglais, puis l'autre 40. Puis on a aussi un 10 % extérieur du Québec, puis un 10 % international.
Et tout ça, donc, est choisi au sort, ou du moins par un processus où on ne juge pas de la pièce.
Non.
Il n'y a pas des dangers à ça quand même? Parce qu'il faut s'assurer qu'il y a quand même... Je sais qu'il n'y a pas de censure, mais qu'il n'y a pas de propos inacceptables.
Bien, en fait, on n'a pas de censure. Puis on parle beaucoup avec les artistes aussi pour s'assurer que, si nécessaire, il y aurait un avertissement de contenu aussi sur leur travail, comme on leur explique la nécessité de ça aussi. Mm-hmm. Mais c'est ça le fringe, c'est ça qui est le fun, c'est que si tu choisis un spectacle au hasard, tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir.
Oui.
C'est ça qui est beau, là.
Contrairement à beaucoup d'autres événements, le Fringe reverse la totalité des recettes de billetterie aux artistes.
Mm-hmm. Ouais.
Quel impact ça a sur votre relation avec les compagnies?
C'est intéressant parce que c'est vraiment eux qui s'occupent de leur promo, de leur vente. Donc, tu sais, ils travaillent fort. C'est pour ça qu'on les guide aussi. Puis ça fait aussi que ils ont cette fierté-là de comme ils savent exactement qu'est-ce qu'ils vont recevoir à la fin du festival parce que c'est tout dans le fond.
Alors moi je pense au cabaret de l'Apocalypse qui disait que leur premier soir il y avait 4 personnes, donc c'est tout ce qu'ils vont avoir.
C'est pour ce soir-là.
Pour ce soir-là.
Mais il y a aussi un buzz qui se crée comme là. Oui. T'es en train d'en parler juste ici aujourd'hui. Il y a un buzz qui se crée au travers du festival aussi. On vend aussi des passes pour le festival, 3 spectacles, 6 spectacles, 10. Donc, les gens aussi ont l'opportunité d'essayer de toucher à tout grâce à leurs passes. Mm-hmm. Mais oui, à la fin de la journée, c'est vraiment eux qui produisent, c'est leur recette.
Ils n'ont pas à payer la salle. Ils n'ont pas à rien payer. Ça, c'est vous autres. Et vous avez un financement, j'imagine, quelque part pour payer tout ça.
Oui, nous, on fait plusieurs campagnes de financement durant l'année. On a des...
Pas facile, le financement de nos jours?
Non.
on pourrait en parler en long et en large, mais toutes les organisations culturelles vivent ça. J'aimerais qu'on parle du mini-fringe.
Oui.
C'est quoi ça?
Le mini-fringe... On était supposé avoir un événement au parc Fringe hier, mais là, il pleuvait à Sion.
Ah, ça, c'est plate.
Mais on a quand même une programmation qui est pour les enfants, dans le fond, pour les enfants, famille. On trouve que c'est le fun de commencer nos fringers jeunes. Donc, on aime ça. Tu sais, pour aider les parents, dans le fond, à comme trouver là, qu'est-ce qui est approprié pour mon enfant, qu'est-ce qui est le fun. On a un spectacle... ça s'appelle « Un huard a le cafard » au Café Centropole. C'est dehors.
Oui.
Puis on a aussi des spectacles, justement, « Sa mousse » dans le parc Émile Néligan, qui parle d'une fille qui veut prendre son bain puis qui découvre sa confiance.
Ah, c'est cute.
Donc, c'est vraiment cute, là. Puis c'est le fun de voir des enfants aussi participer dans ce festival-là.
Ben, moi, je vais le dire, je vais voir d'autres spectacles.
Okay.
J'ai vu Vice, qui est au Théâtre Sainte-Catherine. Je vais aller voir Tic Tic Boom, qui s'en vient.
J'étais sur ma liste.
Puis je vais voir aussi Femme Fatale bientôt.
Okay.
Alors, c'est très difficile parce que j'ai en même temps les Franco, mais bon, on trouve du temps pour aller voir tout ça. Mais pour la programmation, ceux qui veulent voir ceux et celles qui veulent voir ce qu'il y a, on va sur le site web?
Oui, c'est le montrealfringe.ca.
Ouais.
Vous allez voir là, toute notre programmation A à Z qu'on appelle, qui est tous les spectacles en salle et off.
Et on peut acheter, c'est très facile, la billetterie fonctionne très bien, on peut acheter là, directement son billet sur place.
Oui, puis les billets les plus chers, c'est 19 $ donc c'est accessible.
C'est accessible.
Ouais.
Ben, Laurence Côté, gestionnaire des opérations et relations d'artistes au Festival Fringe, merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi.
Merci.
La nuit ne fait que commencer. Je veux jouer, je veux jouer. J'ai tant de choses à te montrer. Je veux jouer, je veux jouer. C'est toi qui me donnes des idées. Je ne peux m'empêcher d'imaginer. Tes mains sur ma peau, dis-moi ce qu'il te faut. Je ferai comme dans les vidéos. Dis-moi où tu veux aller, mais n'oublie pas, je sais sur quel pied danser. J'ai voulu t'écrire 100 fois, je ne fais qu'imaginer tout ce qui pourrait. Que commencer, je veux jouer, je veux jouer. J'ai tant de choses à te montrer. Je veux jouer, je veux jouer. C'est toi qui me donnes des idées. Je ne peux m'empêcher d'imaginer. Tes mains sur ma peau, dis-moi ce qu'il te faut. Je ferai comme dans les vidéos.
La chanson « Je veux jouer », c'était Alex.
Une personne sur 25 au Canada souffre de ce trouble alimentaire qu'on appelle la dysphagie, qui touche des milliers donc de personnes, et souvent c'est en silence qu'elles vivent ça. Porter à la bouche, croquer et surtout avaler, ce geste que nous faisons des centaines de fois par jour, sans même y penser, devient un combat quotidien pour ceux qui vivent avec ce qu'on appelle de la dysphagie. Le mois de juin marque désormais officiellement la toute première édition du mois de la sensibilisation à la dysphagie au Québec et au Canada. Pour en parler, je reçois France Grondin, fondatrice de Dysphagie Canada, et Amélie Lacroix, qui a plusieurs titres, mais je vais la présenter comme nutritionniste et conseillère cadre aux pratiques professionnelles chez Santé Québec. Mesdames, bonjour.
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 Amélie, je vous ai pas mal présenté, j'espère.
Ben non, c'est parfait, merci.
Alors, je vais commencer par France. France Grondin, pourquoi fonder un organisme qui, comme ça, le Dysphagie Canada?
Parce que ça n'existait pas ici. Contrairement en Europe, aux États-Unis, ça fait plusieurs années que le mois de juin est dédié à la sensibilisation, à la dysphagie. Et pour briser l'isolement des personnes dysphagiques, sensibiliser la population.
Ouais.
Je vais laisser la parole à Amélie.
OK. Amélie, allez-y. Donc, c'est quoi concrètement la dysphagie?
Ben, la dysphagie, ça se résume en fait à la difficulté à avaler, mais vous l'avez déjà bien annoncé là, tout à l'heure. Donc, une personne peut avoir de la difficulté à avaler un solide, un liquide ou les deux aussi.
Mais qu'est-ce qui cause ça?
À la fois. Ce qui peut causer ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dysphagie, c'est pas une maladie en soi, c'est pas un diagnostic, c'est un symptôme.
Okay.
C'est un symptôme d'une condition qui est en arrière de ça. Ça peut être une condition quand on s'est fait peut-être juste au niveau d'une pharyngite, par exemple. Ça, c'est pas très grave, c'est temporaire. Tu sais, c'est une infection, ça peut revenir, mais c'est quand même une difficulté à avaler. Mais il y a des conditions qui sont plus permanentes, qui sont plus longues et qui vont malheureusement se détériorer aussi dans le temps et qui vont causer de la dysphagie. Donc, on peut parler de la sclérose en plaques amyotrophique ou la sclérose en plaques. On peut parler de Parkinson, d'accident vasculaire cérébral qu'on appelle là, AVC. Mm-hmm. Ça peut être aussi l'Alzheimer. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, puis bon, tout ce qui est cancer de la gorge, de l'ORL, c'est que des fois, on a ce symptôme-là qui va peut-être malheureusement se détériorer ou du moins se stabiliser quand c'est quelque chose d'un peu plus permanent. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la dysphagie, ça n'a pas d'âge, hein. C'est un peu comme le cancer, ça peut aussi toucher les enfants, ça peut toucher les adolescents, les personnes plus âgées, les adultes. Par contre, c'est sûr qu'il y a des conditions qui sont associées un petit peu plus au vieillissement. Donc, voilà, en gros, c'est cette incapacité-là à déglutir, à avaler. Ce que ça l'amène comme facteur, comme danger, là, ce que je dirais que c'est au niveau de l'étouffement. Bon, c'est sûr qu'on peut avoir un aliment qui reste coincé dans la gorge. Ça peut amener un risque de dénutrition et de déshydratation aussi, parce que pensez que quand on change nos textures, nos liquides, ben c'est moins appétissant un peu. C'est des peut-être des fois une texture qui est purée, qui est une texture qui est hachée. Donc, on a peut-être un petit peu moins de plaisir. Et ça nous en prend un petit peu plus pour atteindre nos besoins aussi. Puis, il y a aussi ce qu'on connaît peut-être un peu moins, la pneumonie d'aspiration qu'on appelle, c'est que tu sais, il y a des aliments, le tube digestif et les voies respiratoires sont assez collées. Proche, là, donc, oui, fait, tu sais, on appelle ça de passer dans le mauvais tuyau. Oui. Là. Fait que, tu sais, des fois, ça peut aller dans les poumons. Sauf que pour une personne qui est en santé, qui a de la force musculaire, va être capable de faire ressortir ce petit aliment-là ou les liquides. Alors qu'une personne qui a une condition que je vous parlais tout à l'heure, mais un petit peu plus de faiblesse, donc ça, des fois, on appelle ça même une pneumonie silencieuse. Ça fait que ça va aller tranquillement, silencieusement dans les poumons. Puis, ce que ça l'amène aussi, c'est le retrait social que Madame Grondin va aussi nous parler tout à l'heure. Donc, tu sais, c'est cette peur de manger en public parce que nos aliments ne sont pas de la même texture, on a moins de plaisir, on s'isole un petit peu. Donc, c'est les grands cinq facteurs là, que je vous dirais qu'il faut porter à l'attention.
Bien justement, Madame Grondin, est-ce qu'on pourrait peut-être vous demander de raconter un peu ce que vous vivez, vous, comme personne? Je comprends que vous êtes atteinte de cette condition aussi.
Ce qui me frustre le plus en tant que personne dysphagique, c'est qu'au moment où j'ouvre la télévision, on est inondé d'annonces publicitaires que Subway, les pizzas. Et nous, on ne peut pas manger de ça. Tu sais, on mange d'abord avec les yeux. Et moi, mon conjoint n'est pas dysphagique. Donc, je cuisine pour une personne normale et pour moi qui est dysphagique. Et je fais quand même l'épicerie. Mais là, moi, je suis une gourmande, donc j'arrive dans les épiceries et je veux tout manger. mais j'ai pas le droit. Parce que je suis à risque de pneumonie. Et ça me tente pas d'être hospitalisé.
Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui a causé votre dysphagie, Mme Grondin?
En fait, brièvement, en septembre 2022, je me suis rendue à l'hôpital pour passer une simple bronchoscopie parce que le pneumologue entendait un petit bruit des bronches et il y a eu une mauvaise manipulation. Et quand ils ont essayé la caméra, mes cordes vocales se sont refermées l'une sur l'autre. Donc, ça a été l'arrêt respiratoire. Soins intensifs, relégués aux urgences, qui devaient être temporaires, c'est avéré permanente. Par la suite, gastrostomie. Parce que manger purée, ça met un fièvre. Vous voulez perdre du poids, mangez purée. Donc, moi, je mange purée, un petit peu solide. Et la médication et mes suppléments par la BLM à l'aide d'une seringue et d'un tube pour me garder en santé.
Wow! Je ne vais pas vous épuiser là, parce que je sens que c'est beaucoup d'efforts, mais on a abordé tout à l'heure l'isolement social auquel font face les personnes qui vivent avec cette condition-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Tu sais, des fois, comme disait Amélie tout à l'heure, parfois les gens ne veulent pas sortir parce qu'elles ne veulent pas être vues en train de manger, tout ça. Comment vous vivez ça, France?
Ça fait 3 ans que je ne vais pas au restaurant. Ni entre amis, ni avec mon conjoint. Les amis ont peur de t'inviter à manger parce que ils savent pas trop quoi cuire. Moi, de mon côté, j'ai pas peur de les inviter, mais mon cercle est fermé. Et je ne vois pas. Je ne peux pas boire comme une personne normale, donc moi, je bois à l'éponge parce que il n'y a pas de danger que ça aille dans mes poumons. Je peux boire un verre d'eau ou un verre de vin comme les personnes normales. Donc, je ne peux pas aller en soirée, aller dans un petit bistrot. C'est impossible. Donc, c'est vraiment... Tu te retrouves seul, pas vraiment de soutien. Et le monde a comme des craintes, des peurs. Et c'est normal, dans le fond. Parce que la dysphagie, il faut se comprendre, c'est méconnu. Le monde n'en parle pas. On ne veut pas. Donc, c'est un sujet qui est un petit peu tabou. Au Québec et au Canada. Et pourtant, au Québec, on est près de 500 000 pour diverses causes.
Ouais.
C'est quand même 60 pathologies causes de dysphagie.
On va devoir conclure là-dessus. Je vais donner peut-être le dernier mot à Mme Amélie Lacroix. Il ne nous reste pas plus qu'une petite minute. Fait qu'allons-y pour une petite conclusion rapide. Oui.
Oui, je vais faire ça rapide. Donc, ben voilà, c'est que pour les personnes dysphagiques, en fait, quand vous pensez qu'il y a une condition qui vous amène un peu de la dysphagie, c'est sûr que d'en parler à votre médecin, à un ORL, ça va vous amener aussi à être capable de vous faire évaluer s'il y a une équipe interdisciplinaire qu'on appelle. Donc, oui. C'est constitué de nutritionnistes qui, pour la part, la sécurité de la déglutition, le choix de l'alimentation, parce qu'il y en a qui mangent par la bouche, d'autres par, malheureusement, un tube. Oui. Il y a l'orthophoniste, l'ergothérapeute aussi qui va vraiment y aller avec des mécanismes de réadaptation, renforcer la musculature et avoir des stratégies là, pour sécuriser aussi l'alimentation. Donc ne soyez pas seul.
Ne restez pas seul, c'est le message de ce mois de la dysphagie. Puis d'ailleurs, il y a le livre aussi de Mme Grondin qu'on peut lire sur la dysphagie, sur son expérience à elle. On va devoir s'arrêter là-dessus, France Grondin et Amélie Lacroix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, ça a été un plaisir.
Après la pause, on va parler de musique classique et on va parler de cirque.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
On déplace de l'air. On se dit des choses aiguisées. On prend les chemins de travers. On se blesse souvent, on se surprend à recommencer. J'arrive comme un orage dans la tempête. Je n'ai plus la force de me défendre. On n'arrête pas, on n'arrête pas de se perdre.
On n'arrête pas,
on n'arrête pas, on n'arrête pas de se perdre pour rien. Qui bouge. On sauve les meubles à chaque fois. Et c'est chacun pour soi. Je m'ennuie du temps où l'eau était calme. J'arrive comme un orage dans la tempête. Je n'ai plus la force de me défendre.
On n'arrête pas, une chanson de Lou Adrienne Cassidy.
Si vous êtes à Montréal, vous passez par Montréal, ne manquez pas cet événement. C'est la journée classique le samedi 4 juillet à l'Oratoire Saint-Joseph. Pour en parler, nous recevons Taras Koulich, qui est le directeur général de l'Orchestre classique de Montréal. Allô, Taras, ça va bien?
Bonjour, Denis Martin. Plaisir de jaser avec toi.
Oui, oui, on se connaît, on va se tutoyer. Alors, écoute, on va commencer par la question de base. C'est quoi l'Orchestre classique?
Ah, mon Dieu, c'est un orchestre qui existe. C'est la plus ancienne orchestre de chambre au Canada. On est là depuis 87 ans. Mm-hmm. Et c'était anciennement l'orchestre de chambre McGill. Alors, on a changé de nom il y a une dizaine d'années. Et on est de l'Orchestre classique de Montréal. Voilà.
Alors, comment est née cette idée d'aller investir l'Oratoire Saint-Joseph pour un festival d'une journée entière?
Oh, c'est une bonne question. L'idée originale, c'est parce qu'on a une très belle relation avec l'oratoire. On présente notre messie annuel à la crypte de l'oratoire depuis, je pense, c'est à peu près 6 ans, 7 ans. Et cette idée vraiment est née de notre mandat de rendre la musique classique accessible à tous. Oui. Et on prend vraiment ça très au sérieux et on aime beaucoup découvrir la musique classique à de la population qui normalement n'aurait pas accès. Et donc, on a créé ce festival d'une journée qui présente une dizaine de concerts gratuits toute la journée, en 10 heures du matin jusqu'au coucher du soleil. Après, quasiment à chaque heure, il y a un mini-concert de 30 minutes dans les divers lieux de l'oratoire qui est vraiment époustouflant si on ne connaît pas. Il y a des jardins, il y a plein de différentes places à l'oratoire que à moins qu'on y va, on ne connaît pas.
Ouais.
Alors, c'est vraiment la mission, c'est vraiment de rendre la musique classique accessible et intéressante à toute la famille. Donc, venez avec avec vos enfants, pour faire un pique-nique. S'il fait beau, c'est à l'extérieur. S'il fait moins beau, ça va être à l'intérieur.
Oui, parce que les gens ont souvent l'impression que pour apprécier la musique classique, ben il faut avoir des, faut être mélomane, faut être quelqu'un de très érudit, alors que c'est pas du tout ça.
Ben, c'est exactement l'image qu'on veut briser. On veut briser cette image de snobisme parce que la musique classique, c'est accessible à tous. Et si on y pense, c'est dans tous les films, c'est dans tous les publicités, à la radio, à la télévision, et on n'en est même pas conscient, mais la musique classique est partout. Mm-hmm. Alors, découvrir la musique classique dans des mini-formats comme ça, à chaque heure, dans divers lieux, c'est la meilleure manière parce qu'il n'y a pas de on peut s'habiller en short, on peut être comme on veut, puis découvrir de la belle musique dans une atmosphère décontractée.
Parlons de la programmation, vous avez choisi donc je ne sais pas si toutes les pièces sont toutes coulées dans le béton, je lisais le communiqué, ça avait l'air, mais en tout cas, vous avez choisi donc des pièces, des concerts qui vont aussi avec les lieux où ça va être fait, c'est ça?
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, les divers lieux, comme on présente un récital du Carillon qui a été bâti juste il y a une couple d'années. Ça a été ouvert, je pense. Mm-hmm. Donc, c'est assez nouveau et intéressant de découvrir cette grande instrument. C'est la tour qui projette à la droite de l'oratoire. Et c'est très intéressant d'entendre cet instrument-là. Alors, c'est à découvrir au public, absolument.
La programmation ne se limite pas à la musique classique traditionnelle, parce qu'on va trouver, si j'ai bien vu, du tango, du jazz, de la danse, même de la peinture en direct avec Art Cloche. Comment vous avez décidé de faire ça? Pourquoi d'amener toutes ces autres formes de musique et d'art?
Ben, c'est vraiment de présenter une variété de musique toujours influencée classique, parce que le jazz est né de la musique classique aussi, il faut pas oublier. Alors, c'est très intéressant ce qu'on propose au public. C'est vraiment une grande variété, une diversité de programmation du matin jusqu'au soir.
Alors, vous avez prévu, concrètement, vous avez prévu quoi aussi pour les enfants? Parce que quand même, amener des enfants, voir de la musique. Ben, peut-être que 30 minutes, ils vont se tenir tranquilles, mais sérieusement, est-ce qu'il y a une programmation spéciale pour eux autres?
Oui, à 14h et à 15h, les Jeunesses musicales du Canada présentent une présentation qui s'appelle « Musique au corps ». Puis c'est vraiment une découverte des instruments de percussion. Puis les enfants vont être invités de faire du bang-bang sur les instruments et de découvrir ce que c'est. Ça va être guidé par des personnes, des jeunesses musicales. Mm-hmm. Donc, ça va être quelque chose d'intéressant et différent. Et je crois que ça va intéresser autant les parents que les enfants.
Oui, mais parlons de la pièce de Résistance. Maintenant, parce que le festival va se terminer vers 20h30 sur la terrasse de la Basilique avec un concert qui va être dirigé par votre directeur artistique, André Ferrer. On s'attend à quoi?
Écoutez, ça va être le moment culminant du festival. Comme l'été dernier, c'était la première édition, là c'est la deuxième. Le concert au coucher du soleil, il y avait 2000 personnes sur les escaliers. C'était époustouflant parce que quoi de mieux que de regarder un beau coucher de soleil en écoutant de la musique qui nous fait contempler la vie et les émotions. Alors, c'est toujours un point très intéressant et c'était très populaire l'été dernier. Alors, je crois que ça va être la même chose cette année. Donc, on a notre octuor à cordes, donc 8 musiciens qui vont jouer de l'orchestre et qui vont présenter une variété de répertoires classiques.
Excellent. Ces concerts donc sont offerts entièrement gratuitement?
Absolument. Absolument. Tout est gratuit et ouvert à toute la famille.
Pour ceux qui veulent s'informer, on va sur le site web de l'OSM, de l'OCM, pardon. Je commence à mêler mes lettres, de l'OCM, l'Orchestre classique de Montréal.
Oui, c'est orchestre.ca.
Parfait. Il y a 3 autres concerts gratuits cet été. Est-ce qu'on peut en parler? Tu as le temps de nous dire un peu ce que c'est, quand, où et comment?
Oui, bien sûr. On présente 3 concerts dans la série de concerts qui s'appelle les concerts Campbell. C'est une série de concerts gratuits sur l'île de Montréal. Donc, on présente 3 concerts dans le mois d'août. Et encore une fois, vous pouvez découvrir les lieux et les dates exactes sur notre site, donc orchestre.ca. Donc, c'est en début août jusqu'à mi-août. Donc, on fait 3 parcs. Donc, on fait le parc à Hansik, un parc à NDG et un parc à Anjou. Okay. Alors ça aussi, ça apporte la musique à des diverses communautés de Montréal pour rendre encore une fois la musique classique accessible à tous et dans une atmosphère décontractée.
Et voilà, ben Taras, c'est vraiment pas compliqué de tout comprendre ça avec toi. Merci beaucoup, directeur général donc, de l'Orchestre classique de Montréal, Taras Klulich. Merci beaucoup et bon concert et bon été.
Merci à vous aussi.
Arroser ma valeur, c'est cool goutte à goutte et la taille sur les pots cassés. Une histoire si bien ficelée, ton amour est fin muselé. Je suis la douce, c'est mon cœur qui s'est noyé. À qui la faute, à qui les mots qui glissent et vite se brisent sur ma peau. Nos larmes séchées en crasse l'écho. La tempête a crisé, le silence sonne. Y'a tes cris qui résonnent, la douleur cogne.
Naïma Frank ou Franck, ainsi soit-il.
La semaine dernière, Mathieu, je suis allé, j'ai vécu une expérience circassienne unique. En fait, c'est la deuxième fois que je vois ça, c'est Confession. Confession qui est présentée au monastère ici à Montréal. C'est un spectacle bénéfice que je dirais audacieux, présenté en collaboration avec Fierté Montréal. Pour en parler, je reçois Guillaume Blais, qui assure la direction, la gestion et la création au monastère, cofondateur du monastère aussi. Alors Guillaume, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation.
D'abord, pas tout le monde connaît c'est quoi là, le concept du monastère? Qu'est-ce qu'on peut expliquer?
Bon, en fait, le monastère, c'est une église qu'on a adaptée en salle de spectacle à l'église Saint-Jacques, qui est sur Sainte-Catherine au coin de Bishop.
Ouais.
Et on fait 5 productions par année où on ouvre les portes justement aux artistes pour venir présenter leur travail. Et on a un peu un tremplin, en fait, pour les artistes. Là.
Alors, une fin de semaine comme la fin de semaine dernière, il y a un spectacle de cirque le soir, le lendemain matin, il y a des messes.
Il y a la messe, bien sûr. Donc, c'est un partenariat qu'on a développé avec l'église Saint-Jacques, où nous, on s'occupe de l'église du lundi au samedi en tant que gestionnaire, et eux, on s'occupe du dimanche.
Bon, tout le monde est heureux. Confession, c'est quoi l'idée derrière ce concept?
Bien, on essaie souvent d'aller chercher des thématiques. Puis, bien, moi aussi, je fais partie de l'alphabet du LGBTQ.
Oui.
Puis, je trouvais ça important aussi de donner une voix justement à la communauté. Donc, c'est de là que l'idée est partie. Et Confession, c'était vraiment pour comme créer un parcours justement pour démocratiser justement le...
Puis ça se passe dans une église.
Exactement, c'est quand même, le message est quand même fort.
Alors, vous utilisez l'espace assez... parce qu'il y a un parcours, expliquez-moi ça un petit peu.
Oui, exactement. En fait, on a 4 espaces à l'église. Donc, ça commence dans le jardin où on accueille les gens. On les fait descendre dans le sous-sol. On remonte dans le hall pour la 3e salle. Et ça termine dans le grand sanctuaire où le spectacle principal a lieu.
Dans le jardin, on nous demande d'écrire des confessions.
Oui, exactement. Ben, ça fait fait partie du concept, justement, de façon anonyme, bien sûr. Puis, bien, à travers le spectacle, on réutilise justement les confessions. Donc, quand on arrive dans le hall, on a accroché, fait que les gens peuvent aussi lire les confessions. Gisèle, qui était notre maître de cérémonie pour...
Gisèle Lebeil, la drag queen, qui a gagné Canada's Drag Race, je pense, la troisième saison.
Oui, exactement. Donc, elle lit aussi pendant le spectacle des confessions. Puis aussi, on a un DJ qui chante, donc qui fait de l'improvisation avec les confessions des gens qu'on lui remet.
Oui, ben, je vous dirai pas si la mienne a été lue ou pas. J'en avais toute une.
Il y en avait des croustillantes, quand même.
Ouais. Bon, là, je vais invoquer, là, quoi, c'est le premier amendement qu'ils disent aux États-Unis, ou je sais pas quoi, là, mais en tout cas, parce que
cinquième.
Parce que je pourrais me vendre ici. Alors, le public reste pas assis, il bouge, il cherche, il s'approche des artistes, hein, parce que, moi, lorsque je suis allé l'année dernière, les gens allaient d'une scène à l'autre pour regarder. Cette année, quand je suis allé, ils sont restés quand même assis, mais il y avait que trois scènes. Essentiellement, fait que les gens restaient où ils étaient. Mais bon, il s'approche. J'ai l'impression qu'il y a une relation plus intime avec les spectateurs, spectatrices.
Bien, c'est sûr que ça fait vraiment partie de notre mission d'offrir la proximité. Donc, tu sais, les artistes qui passent sur notre scène, quand même, c'est les mêmes que les grandes compagnies qu'on connaît tous. Mm-hmm. Mais à la différence, on est vraiment à quelques mètres ou de la scène, justement. Donc, ce qui rend l'expérience vraiment plus immersive, on peut entendre l'artiste respirer, on voit toutes les muscles travailler, donc ça fait aussi partie vraiment de ce qu'on veut démontrer au grand public.
On ressent l'émotion aussi beaucoup plus de l'artiste. Je ne sais pas si l'artiste ressent les nôtres, mais on ressent ses émotions. Je pense juste à celui qui se... Non, le nom ne me revient pas, mais il était en talon haut.
Giovanni.
Ah mon Dieu, je me dis, mais comment est-ce qu'il fait? Et puis j'ai comme senti qu'il était content.
Ouais.
De sa performance, content de la réaction du public. Est-ce que je me trompe?
Oui, puis ben, en fait, je pense que c'est vraiment un sentiment général pour les artistes. Il y a très peu d'opportunités de pouvoir présenter son travail à Montréal. Puis c'est là que le monastère, en fait, on a décidé de le créer, en fait. 90% du marché est à l'international, donc on est juste heureux de pouvoir présenter notre travail à la maison, devant les amis, la famille, la proximité.
Oui. On l'a dit tantôt, c'était l'idée, c'était de mettre en lumière des artistes de cirque issus des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Comment s'est orchestré le travail de création? Comment on a fait ça?
Bien, en fait, le milieu circassien, il est quand même assez petit, donc...
Tout le monde se connaît.
Oui, exactement. Ouais. Donc, j'appelle les amis, puis je leur dis, bon, ben, est-ce que vous êtes en ville pendant cette période? Puis tranquillement, selon les gens dans mon entourage qui répondent à l'appel, bon, on construit le spectacle autour de ça.
La production réalisée en collaboration avec Circus X.
Oui, exactement.
Et durant le mois international des fiertés, qu'est-ce que cette alliance-là apporte à l'événement?
Oui, c'est pendant le mois de la fierté. Je crois que c'est important de le souligner. Puis, en fait, c'est souvent la communauté de cirque queer, c'est celle qui travaille un peu moins, en fait. Mais je dirais qu'à travers même l'année, j'essaie toujours d'intégrer au minimum un ou une artiste issu de la communauté pour justement de montrer de la diversité dans nos productions.
L'animatrice, donc, c'était la drag queen Gisèle Lebeil. Toujours très drôle, mais oh, boy, boy! Gisèle est... Elle est connue pour, comment je pourrais dire, des propos très religieux, disons. qu'est-ce qui a motivé le choix d'aller vers Gisèle cette année? L'an dernier, c'était Barbada et Marlodir.
Marlodir, oui, exactement. Ouais. Puis, ben, justement, c'est de montrer de la diversité aussi au niveau des drag queens. C'est moi qui avait eu l'idée pour Gisèle, parce que je suis quand même un fan de son travail. Oui. Je trouve que c'est vraiment un artiste accompli et très poli. Polish, peut-être.
Oui.
Ça peut être interprété de différentes façons.
En effet. Je pense pas que Simon s'en serait fâché. Tout ça pour dire, parce que l'an dernier, moi, je me rappelle Barbada. Je pense qu'elle a été inspirée par son travail avec vous, parce que lorsqu'elle a fait le grand show 100% drag, elle nous a fait un numéro de cirque, de trapèze.
Ouais. Oui, exactement. Puis ben, en fait, ben, j'ai collaboré quelques fois aussi avec Barbada. C'est une amie connaissance à moi. Puis on l'a aussi mis dans un autre spectacle de cirque qui était sur un camion de pompiers. Donc c'est un peu comme ça aussi que j'aime travailler, d'aller chercher des collaborations pour...
Mais là, Gisèle, vous lui faites faire beaucoup de choses.
Ouais, je pense qu'on a
poussé. Elle était un bon franglais, elle était game.
Oui, oui. Puis elle a jamais dit non et elle a toujours été allez, on y va. Puis.
Là, je peux divulgâcher parce que le spectacle, malheureusement, a terminé, mais elle était sur. Elle était sur, donc sur un trapèze qui était tenu par la bouche par une artiste de cirque et qu'on l'a monté dans les airs. Hein?
Exactement. Donc, elle était tenue par la bouche d'une artiste, mais aussi, on l'a quand même monté à genre 30 pieds d'eau dans les airs, ce qui est quand même pas négligeable non plus pour quelqu'un qui avait jamais vraiment fait ça.
Oui, mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle avait bien eu peur au départ. Si les représentations sont terminées, est-ce qu'il y aura un moment donné où ça... Il me semble que l'année dernière, vous avez fait plus souvent, est-ce que je me trompe?
Non, enfin, on a doublé les représentations. C'était, on en avait juste deux l'an dernier. On en a fait quatre cette année. Mmh. On a un prochain spectacle qui s'en vient dans trois semaines, qui est le jugement dernier.
Oui.
Donc, après se faire confesser, on vient se faire juger. Ouais. Mais en fait, c'est une compétition de cirque pendant Montréal, complètement cirque, qu'on organise. C'est plus des artistes de la relève.
Est-ce qu'il y aura peut-être l'année prochaine une autre confession, peut-être?
Je pense que oui.
Ah oui, hein? Je pense que la tradition est vraiment rendue là.
Ouais.
On vient de parler, donc, jugement dernier. Confession, est-ce qu'il y a d'autres spectacles à prévoir dans les prochains mois?
On va faire un All Stars justement fin septembre, début octobre. On en a un autre en novembre où on se pousse un peu aux couleurs du temps des fêtes.
Mm-hmm.
Et mars, on fait un autre cabaret.
Et donc, confession, c'était aussi l'occasion d'amasser des fonds, notamment pour le monastère, parce que le financement, c'est toujours une... C'est devenu compliqué. À chaque fois que je reçois des gens ici, on parle de problèmes de financement.
Oui, quand même.
est-ce que c'est important pour vous autres, ce que vous amassez là?
Bien, c'est important, mais aussi, je pense, c'est important pour soutenir les artistes. Il y a aussi des programmes de philanthropie qu'on met de l'avant, où on va chercher des mécènes qui sponsorisent des artistes qui, parfois, il manque juste un petit peu d'amour. Donc, on peut sponsoriser un artiste, puis nous, on les aide à développer artistiquement et à les amener sur scène. Donc, il y a quand même vraiment tout un échange aussi de soutien, oui, pour le monastère, mais je pense aussi pour les artistes.
Bon, alors, on a vu Barbada qui s'est adonné à faire des numéros de cirque après sa collaboration avec le monastère. J'ai hâte de voir ce que fera Gisèle Lelebray.
Qui sait?
Qui sait? Merci beaucoup encore.
Merci beaucoup.
Alors, je remercie Guillaume Blais du monastère qui était avec nous aujourd'hui. Radio-Canada, hier, la simulation magnétique transcrânienne répétée, communément appelée SMTR, s'impose de plus en plus comme une solution de rechange efficace pour les adultes souffrant de dépression majeure réfractaire au traitement standard. Cette technique de neuromodulation, approuvée par Santé Canada, utilise des impulsions magnétiques ciblées pour réguler l'activité des neurones dans les zones cérébrales liées à l'humeur. Contrairement au traitement par électrochoc, la procédure s'effectue en consultation externe, ne requiert aucune anesthésie et n'entraîne pas d'effets secondaires sur les fonctions cognitives. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES, a d'ailleurs publié un avis confirmant la pertinence clinique de cette technologie afin de mieux encadrer son utilisation et d'en structurer l'accès dans le réseau de santé québécois. Dans le devoir du 12 juin à l'Assemblée nationale, les élus ont adopté le projet de loi 23 qui modifie en profondeur les règles encadrant les hospitalisations forcées au Québec. Porté par la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, cette législation constitue une refonte majeure de la loi P38 vieille de plus de 25 ans. Le changement principal réside dans l'élargissement des critères d'intervention. Jusqu'à présent, les autorités ne pouvaient hospitaliser une personne contre son gré que si elle présentait un danger qualifié de grave et immédiat. La nouvelle loi retire cette notion d'immédiateté permettant d'agir dès qu'une situation de danger potentiel est constatée, par exemple lors de la détérioration de l'état mental d'un individu suivi en psychiatrie. Cette réforme découle notamment des recommandations émises par le meurtre de la policière Maureen Brault en 2023. Si le gouvernement affirme vouloir intervenir plus tôt pour éviter des drames, l'adoption s'est faite dans la controverse. Des groupes de défense de droits fondamentaux craignent une hausse abusive des privations de liberté, tandis que les députés de Québec solidaire ont voté contre le texte dénonçant un processus législatif précipité en fin de saison parlementaire. De session parlementaire. Et puis le journal de Saint-François, 12 juin, deux nouveaux panneaux de signalisation viennent d'être installés sous la rue du Havre de Lille, dans le secteur Grande-Île de Salaberry de Valleyfield. Affichant un pictogramme de l'oreille barrée, ces panneaux indiquent la présence d'une personne malentendante à proximité afin d'inciter les automobilistes à la vigilance. La mesure se fait suite à une demande de Karine Gendron, mère du petit Charlie, un enfant de 4 ans atteint de surdité, d'autisme et de paralysie cérébrale. Le comité de circulation de la ville a rapidement approuvé cette initiative qui vise à sécuriser les déplacements de l'enfant et des autres jeunes du quartier. Il me semble qu'on devrait être prudent tout le temps, pas juste quand il y a une affiche comme ça, mais en tout cas, ça prend ça. Et puis dans le TVA Nouvelle du 11 juin, à 25 ans, le Québécois Alexis Dodier mène un combat contre une maladie génétique rare et incurable, la dystrophie musculaire de Miyoshi. Cette forme dégénérative de la maladie entraîne un affaiblissement progressif des muscles touchant d'abord les extrémités comme les pieds et les mains. Sportif depuis son plus jeune âge, le jeune homme a dû abandonner la pratique du soccer, du hockey et de la course en raison de la progression de ses symptômes. Afin de sensibiliser la population et de soutenir la recherche scientifique pour des traitements expérimentaux, Alexis Dodier agira à titre de porte-parole pour l'événement Marcher et rouler qui se tiendra le 20 juin au parc Rivière-du-Moulin à Saguenay. Bien, c'est le temps de parler un petit peu de météo rapidement. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est alternance de soleil et nuages, probablement partout là, au Canada, avec des maximums qui vont aller jusqu'à 26 degrés dans l'ouest du pays, 20 à 22 au Québec. De la pluie peut-être en fin de journée dans plusieurs régions. Je vous indique aussi que l'indice UV est de 7 ou élevé, donc il faut mettre de la crème aujourd'hui pour éviter les coups de soleil et les cancers de la peau. Et bien, c'est tout le temps, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On arrive à la fin de cette émission. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je serai présent à 17h ce soir pour les reprises de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Je remercie Hélène Denis qui m'a assisté à la recherche. Merci à Mathieu Tessier. Hélène sera de retour demain et moi, je vous revois ou je vous reparle la semaine prochaine. Bye-bye!